Vous écoutez, on lit pour vous.
Le numérique continue de transformer les habitudes culturelles des Québécois. Un texte de Sarah Collardi, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir. Les technologies numériques continuent de métamorphoser les habitudes culturelles des Québécois, surtout celles des plus jeunes. Réseaux sociaux, diffusion en continu, livres numériques, balado. L'Institut de la statistique du Québec, ISQ, a révélé le lundi 11 août 2025 que les produits culturels demeuraient populaires dans la province, mais que leur mode de consommation évoluait. Ces constats sont tirés de la plus récente enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement menée par l'Observatoire de la culture et des communications de l'ISQ. Près de 16 000 personnes âgées de 15 ans et plus ont été sondées en 2024 afin de connaître leurs habitudes culturelles. Il s'agit d'une enquête majeure qui n'est comparable à aucune autre, puisque ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas été réalisée, souligne Pascal Genet, chargé de projet à l'ISQ. Le numérique est omniprésent dans la population québécoise. Ainsi, 96% des gens utilisent Internet à des fins personnelles et 89% sont actifs sur les réseaux sociaux. Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes de 15 à 29 ans, présent à 98% sur ces plateformes. Le numérique est non seulement omniprésent, mais il est aussi évidemment porté par les gens qui sont des natifs numériques, c'est-à-dire des personnes âgées de 15 à 45 ans, explique M. Genet en entrevue avec Le Devoir. L'enquête révèle notamment que moins d'un jeune de 15 à 29 ans sur 10 consomme la télévision traditionnelle en direct et que plus de 4 sur 10 privilégient plutôt les plateformes de diffusion numérique. Ce constat n'est pas le même dans les autres groupes d'âge. Ainsi, du côté des personnes âgées de 60 à 74 ans, presque 7 sur 10 regardent la télévision traditionnelle en direct et 18% consomment des contenus sur des plateformes numériques. Cet écart entre groupes d'âge se retrouve également dans le monde des balados et des livres numériques. Alors que 68% des jeunes Québécois écoutent des balados, seulement 30,7% des personnes de 60 à 74 ans en consomment. En outre, plus une personne est âgée, moins elle est susceptible de lire un livre numérique. 32% des 15-29 ans ont lu au moins un livre numérique en 2024, contre 18,1% chez les 60 à 74 ans. Le rapport note d'ailleurs que les personnes plus âgées, 60 ans et plus, semblent plus attachées, par habitude ou plus grande méfiance envers les technologies, aux pratiques culturelles traditionnelles. La culture québécoise moins populaire chez les jeunes. Si les jeunes Québécois consomment beaucoup de produits culturels de tout genre, ils semblent délaisser les productions d'ici, peut-on noter. Mais ce constat est à prendre avec prudence, selon Pascal Genet. On ne peut pas conclure ça de façon générale. Il faut nuancer selon la pratique, affirme-t-il. La quasi-totalité de la population écoute de la musique, mais les artistes québécois n'ont pas la même popularité dans toutes les tranches d'âge, note ainsi la grande enquête culturelle de l'ISQ. Près de 69,2% des jeunes écoutent surtout de la musique d'artistes non québécois. Seulement 3,9% d'entre eux écoutent principalement des artistes québécois. De leur côté, 18,4 % des personnes âgées de 60 à 74 ans disent écouter principalement de la musique d'artistes non québécois. Même son de cloche au cinéma. Près de 8 jeunes sur 10 âgés de 15 à 29 ans consomment principalement des films non québécois, alors que 32 % des personnes âgées de 60 à 74 ans disent faire de même. Des inégalités d'accès. L'essor du numérique peut réduire certains obstacles à l'accès au contenu culturel, mais il peut également accentuer les inégalités associées au statut socio-économique, note le rapport de l'enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement. Les ménages plus riches sont plus à même de fréquemment pratiquer des activités culturelles que les plus pauvres. Un exemple, 57 % des personnes vivant dans des ménages à faible revenu sont allées au moins une fois au cinéma dans l'année précédant l'enquête, une proportion qui grimpe à 81 % chez les membres de ménages à revenus élevés. De plus, presque 9 personnes sur 10 vivant dans des ménages à revenus élevés sont abonnées à au moins une plateforme non québécoise de diffusion numérique. Cette proportion tombe à 57,7% chez les Québécois membres d'un ménage à faible revenu. Le rapport révèle également quelques différences de consommation de produits culturels selon le genre. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des jeux vidéo, où les hommes demeurent légèrement plus nombreux que les femmes à s'adonner à cette activité, 57 % contre 50 %. Pascal Genet explique que les Québécoises jouent différemment des Québécois. Elles ne vont pas jouer sur les mêmes supports ni dans les mêmes contextes. Elles vont préférer jouer seules, alors que les hommes vont être plus nombreux à jouer, par exemple, en ligne, avec des amis ou des inconnus, note-t-il. C'était « Le numérique continue de transformer les habitudes culturelles des Québécois », un texte de Sarah Collardi, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir.
Un pesticide interdit à Montréal, utilisé par le CN dans des secteurs résidentiels. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 5 août 2025 dans Le Devoir. Des citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont reçu de la Ville de Montréal un avis important, leur demandant de garder portes et fenêtres fermées, mais aussi de limiter les sorties de leurs animaux domestiques non loin des voies ferrées du Canadien national, CN. La raison? L'entreprise devait épandre un pesticide à base de glyphosate, ce qui a été fait mardi. Le recours à ce produit interdit à Montréal soulève toutefois de vives critiques. Le CN procède régulièrement à ce type d'épandage de pesticides un peu partout au Canada, et ce, afin d'éliminer la végétation qui pousse dans l'emprise immédiate de la voie ferrée. À Montréal, de tels épandages ont lieu dans des secteurs résidentiels comme mardi dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. En prévision des travaux à l'horaire cette semaine, la Ville avait d'ailleurs distribué un avis important aux résidents des secteurs touchés par l'opération d'épandage d'herbicides le long de l'avenue Souligny. À certains endroits, la voie ferrée est située à un peu plus d'une vingtaine de mètres des résidences. Dans son avis, la Ville rappelle que des produits interdits par la réglementation municipale sont utilisés par le CN, en ajoutant que le CN n'est pas soumis à la réglementation municipale dans le cadre de ses activités. Le document demande donc aux citoyens de prendre certaines précautions pendant et après les interventions prévues, un message qui s'adresse en particulier à ceux qui demeurent à proximité immédiate de la zone d'intervention. Gardez vos fenêtres et portes fermées. Évitez de circuler à proximité de la voie ferrée et limitez les sorties de vos animaux domestiques à proximité de la voie ferrée, peut-on lire dans les précautions générales à prendre. Cancérigène probable. Le CN reconnaît directement sur son site Web l'utilisation de glyphosate. En rappelant que cette substance conçue pour tuer la végétation de façon non sélective est autorisée au Canada. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, a toutefois classé le glyphosate comme un agent cancérigène probable pour l'être humain. Une décision qui a été contestée, mais les effets des pesticides sur l'environnement, dont nous dépendons directement, ont été largement documentés. La Ville de Montréal a d'ailleurs interdit en 2021 la vente et l'utilisation du glyphosate sur son territoire, en disant appliquer un principe de précaution face aux risques pour la santé humaine et l'environnement. L'utilisation d'un pesticide à base de glyphosate demeure toutefois autorisée dans un corridor de transport ferroviaire. Ronald Daigneault, du collectif en environnement Mercier Est, demeure tout près de la voie du CN. Même s'il demeure dans le secteur depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'il reçoit un tel avis important concernant le recours aux pesticides par le CN. Il se dit inquiet de ces opérations d'épandage d'un tel produit dans un quartier résidentiel et souhaiterait que le CN trouve une autre solution pour éliminer la végétation. La Ville de Montréal prend toutes les mesures en son pouvoir pour protéger la santé des citoyens, comme en témoigne l'avis aux résidents transmis par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'opération, qui est maintenant terminée, a été supervisé par les inspecteurs municipaux qui se sont assurés que les conditions d'application étaient rigoureusement respectées, explique la ville par courriel. Épandage annulé. Résidente de Hochelaga-Maisonneuve et membre de la mobilisation en faveur de la protection des espaces verts situés entre le projet industriel de Raymond Logistique, RML, et le secteur résidentiel situé tout près, Elizabeth Green déplore elle aussi le recours aux controversés pesticides. On ne comprend pas pourquoi notre gouvernement fédéral permet l'usage de ce produit à proximité des habitations et dans des secteurs écologiquement sensibles. Nous demandons un resserrement législatif quant à l'utilisation du glyphosate sur les voies ferrées, fait-elle valoir. Le CN avait envisagé l'épandage sur des voies ferrées situées sur le terrain surnommé « la friche » et comptant des espaces verts qui sont fréquentés par des citoyens et leurs enfants. Les citoyens qui ont intégré ce terrain à leur vie de quartier souhaitent que le recours à un pesticide soit exclu. La ville a toutefois indiqué mardi que, suivant des discussions avec l'arrondissement et la ville, le CN et son contractant ont décidé de ne pas procéder à de l'épandage sur la voie ferrée qui longe le terrain de RML et le boisé Vimont. On trouve notamment dans ce secteur des voies ferrées inutilisées, mais aussi des espaces verts qui sont reliés à deux boisés, dont le boisé Steinberg. Plus de 140 espèces d'oiseaux ont été recensées dans le secteur, dont certaines sont en péril. Par courriel, le CN explique que la gestion de la végétation sur les voies est une obligation. En vertu de la loi sur la sécurité ferroviaire, le CN a l'obligation de contrôler la végétation située sur la voie ferrée ou à proximité immédiate de celle-ci. La végétation le long de la voie doit être contrôlée pour protéger les lignes de vue des équipes de train, pour empêcher les arbres de tomber sur la voie pendant les tempêtes, pour assurer un bon drainage le long des fossés et des ponceaux et pour d'autres exigences liées à la sécurité. Elle est principalement contrôlée mécaniquement par le fauchage. L'entretien a été complété comme prévu cette semaine dans la région de Montréal-Est. c'était un pesticide interdit à Montréal utilisé par le CN dans des secteurs résidentiels, un texte d'Alexandre Shields, paru le 5 août 2025 dans Le Devoir.
Je suis un peu nul, mais mon fils sait investir. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 10 août 2025 dans La Presse. Ce qui est drôle quand vous êtes parent, c'est que dès que vous devenez bon à comprendre votre enfant, il grandit. Et là, vous ne comprenez plus. Et tout est à recommencer. On est comme des experts d'une version de notre enfant qui n'existe plus. Ça devient moins évident avec l'âge. À 6 ans, vous êtes génial. Un chat GPT sur deux pattes. Un super-héros. À 12 ans, vous partez avec deux prises contre vous dès que vous ouvrez la bouche. Vous avez intérêt à ne pas être trop nul. Aussi, ses goûts changent. Par exemple, là, mon fils aime le parfum. C'est la grosse mode dans son équipe de soccer. Il a récemment reçu en cadeau l'Acqua di Gio de Giorgio Armani. Un parfum frais, masculin, avec des notes de romarin, de sauge sclarée et de géranium, selon le site Fragrantica. Il s'en met une bonne dose le matin et me la fait sentir. Je lui dis qu'il sent l'aéroport. C'est pour le taquiner. Mais je suis quand même un peu nul. Alors, il ne s'en formalise pas. Donc, l'autre jour, mon fils, qui sent l'aéroport, a eu 12 ans. Il a voulu savoir combien il avait d'argent. On a vidé sa tirelire et ouvert le document que je mets à jour de temps en temps. Je garde les montants pour nous, mais il était pas mal fier du total. C'est qu'à part acheter un manga ou un chandail d'une équipe de soccer de temps en temps, mon fils n'a pas de grandes dépenses. Donc, son argent s'accumule. Et en s'accumulant, il fructifie. Vous vous en doutez, c'est en plein ce que je veux qu'il comprenne. Depuis plusieurs années, on lui verse une allocation chaque semaine selon le principe des tiers. Un tiers de l'argent va à ses dépenses. Un tiers va à ses placements. Et un tiers va pour un don annuel à un organisme de bienfaisance de son choix. Ensuite, l'idée de base, c'est de laisser l'enfant prendre ses décisions financières le plus possible. Par exemple, imaginez que vous arrivez dans une foire avec votre enfant. Il va vous demander de l'argent pour participer à tel jeu. Ensuite, vous demandez de l'argent pour acheter telle bébelle et plus tard pour manger tel bonbon. Dans ce scénario, c'est vous qui prenez toutes les décisions. Alors l'enfant en demande le plus possible. Il n'a rien à perdre. Dans un monde où l'enfant est autonome, vous lui donnez 20 $ pour la journée. C'est ton budget, donc c'est toi qui fais tes choix. Tout à coup, l'enfant n'a plus à demander. Il doit gérer. Veut-il vraiment telle bébelle au prix de ne peut-être pas acheter de barbe à papa plus tard? La dynamique est complètement différente. C'est lui qui prend les décisions. Les placements d'abord. Ensuite, je sais que beaucoup de parents ouvrent un compte bancaire très tôt à leur enfant. Mais nous ne l'avons pas fait encore parce que les comptes bancaires ne donnent essentiellement aucun intérêt. J'aime mieux lui faire comprendre l'importance des placements financiers. Il y a quelques années, j'ai tout simplement ouvert, en mon nom, un compte de placement géré sur Wealth Simple et j'ai programmé un virement le premier de chaque mois. L'argent est automatiquement placé dans un portefeuille indiciel, diversifié, à frais de gestion modique. Quand mon fils aura 18 ans, je vais transférer les placements dans son compte à lui, sans doute un CELI. Oui, je vais payer un peu d'impôts à ce moment-là. Mais on parle de montants qui ne sont pas énormes ici. Disnat de Desjardins offre un compte S-qualité de tuteur que l'on peut ouvrir pour son enfant. À la majorité, le jeune adulte devient pleinement propriétaire de ses actifs. Les revenus générés, comme les gains en capital, sont imposables au nom de l'enfant, même durant sa minorité. Attention toutefois aux frais d'inactivité ou d'administration. L'idée est surtout pédagogique. Quelques fois par année, on se connecte au compte et mon fils peut voir comment se comportent ses placements. Durant la crise des droits de douane de Trump, en avril, il a constaté qu'ils avaient pas mal baissé. Depuis, ils ont remonté et même atteint de nouveaux sommets. Les gens qui ont vendu en avril parce qu'ils ont paniqué ne doivent pas être bien contents aujourd'hui. Je lui ai dit l'autre jour. Il était bien d'accord. Je ne suis pas plus intense que ça. Je n'essaie pas de lui faire réciter des avantages du REER ou du CELI. Je veux seulement qu'il comprenne qu'il y a au moins deux façons de gagner de l'argent dans la vie. En louant nos heures ou en faisant travailler notre argent. Louer nos heures, c'est facile à comprendre. Qu'on soit un médecin spécialiste ou qu'on lave de la vaisselle, le principe est le même. On est payé lorsqu'on travaille et on n'est pas payé lorsqu'on ne travaille pas. C'est forcément limité, car il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. Et il faut trouver le temps de dormir, de manger, de jouer au soccer, etc. Gagner de l'argent en faisant travailler notre argent, en revanche, c'est illimité. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Et ça ne nous demande pas d'immobiliser nos heures. En fait, ça marche encore mieux lorsqu'on n'y porte pas attention. Qu'est-ce que mon fils va retenir de tout ça? Aucune idée. On s'en reparle dans quelques années. Comme l'a écrit Mark Twain, « Quand j'avais 14 ans, mon père était tellement ignorant que je pouvais à peine le supporter. Mais quand j'ai eu 21 ans, j'ai été étonnée de voir à quel point il avait appris en 7 ans. Peut-être qu'il me reste une chance. » C'était « Je suis un peu nul, mais mon fils sait investir. » Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
Maison du Père, pour que la rue ait une issue. Un texte de Sébastien Thibert, paru le 24 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Présente à Montréal depuis 50 ans, la Maison du Père est beaucoup plus qu'un refuge pour les hommes sans abri de 25 ans et plus. On y offre en effet des services de réinsertion sociale, de résidence pour aînés de la rue, de soins de santé de proximité, d'hébergement d'urgence et de stabilité résidentielle. Voici d'ailleurs l'histoire de Stéphane Brière qui a bénéficié des services de la Maison du Père. Stéphane a été intervenant pendant 25 ans. Il a même participé à l'ouverture d'une maison pour femmes offrant un accompagnement dans leur parcours de rétablissement face aux dépendances. Il a consacré toute sa vie aux autres. Puis, en 2017, tout a basculé. « J'ai vécu une agression. On m'a battu pendant plus de 3 heures. C'était vraiment violent. Ils étaient sept et m'ont laissé pour mort. Il a survécu à ce crime homophobe et haineux, mais il lui a fallu des années pour se relever. Perte de repères, itinérance, vol, tentative de suicide. Il a tout traversé. Un jour, son agent de probation l'a référé à la maison du père. Il a été accepté au service de la Réseau, où il a entrepris un programme de réinsertion sociale. Puis, il a intégré la résidence pour aînés de la maison du père où il a poursuivi son cheminement. À la maison du père, il a trouvé bien plus qu'un toit. Une équipe bienveillante, des professionnels respectueux et surtout des liens durables. J'ai encore des contacts par courriel avec Patricia, mon ancienne intervenante. Je sais très bien que si j'avais besoin d'aide un jour, je pourrais en recevoir de leur part. Depuis février 2025, Stéphane a son propre logement dans un complexe d'habitation. Il souhaite maintenant avoir un animal de compagnie et s'ouvre tranquillement à l'idée d'aimer à nouveau. Il garde un souvenir mémorable de son départ de la maison du père et de l'accompagnement qu'il a reçu, de la solidarité qu'on lui a démontrée. Patricia et Marlène se sont occupées de tout. Elles m'ont aidé à avoir des meubles, de la vaisselle, même un transport pour mon déménagement. Des jeunes du cégep sont venus m'aider. Ils voulaient même prendre des photos avec moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti autant de bienveillance. Ça m'a donné beaucoup. Malgré les peurs qui peuvent persister, il choisit d'avancer. Là, je veux reprendre ma vie. Je ne laisserai pas des homophobes prendre ce que je suis. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Beaucoup de travail, et je suis très, très fier de moi. À la maison du père, l'équipe croit en la résilience et surtout que chaque histoire mérite d'être entendue et chaque personne accompagnée. Sans ces précieux donateurs, la maison du père ne pourrait pas effectuer l'immense travail qui est le sien, de pouvoir transformer le parcours de vie de centaines d'hommes et de femmes qui ont recours à ses services chaque année. C'était « Maison du père », pour que la rue ait une issue. Un texte de Sébastien Thibert, paru le 24 juillet 2025 dans le magazine Fugue.